j'apprends des choses. C'est qui ce pasteur qui est là-bas?
Mathieu Lemaire.
Ah. Pasteur Baptiste. Ah oui, d'accord. Très bien. Ouais, ça fait plaisir d'avoir des échos un peu à retardement, mais qui sont intéressants sur ce qui se passe maintenant. Bon, bonjour à tous. Mon intention ce matin était d'apporter un message en rapport avec la guerre et la paix. Parce que, voilà, on en parle assez peu, je trouve, dans les églises, on n'entend pas beaucoup d'échos sur... Alors, n'attendez pas de moi une analyse géopolitique de ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Ce n'est pas du tout mon but. Hein. Mais de plutôt... moi, je l'ai intitulé plus exactement. Peut-on triompher de la fatalité de la guerre? C'est vraiment important. Peut-on triompher de la fatalité de la guerre? Parce que nous vivons actuellement, sous nos yeux, un retour de la guerre en Europe. C'est pas si loin que ça, peut-être 2 000 kilomètres. Alors, bien sûr, ça inquiète beaucoup de pays, etc., mais c'est l'occasion quand même de nous réfléchir et nous dire, au fond, la guerre est là, et elle est compliquée. N'importe quelle guerre, d'abord c'est horrible, parce qu'il y a des gens qui étaient faits pour s'aimer les uns les autres, qui étaient faits pour vivre une gloire de Dieu dans une espèce de célébration universelle, éternelle, avec la créativité, avec l'amour les uns des autres, avec la beauté de Dieu, et puis voilà que c'est tout le contraire. Dans la guerre, c'est tout le contraire. Alors, c'est vrai qu'il y a une combinaison dans les guerres de deux éléments. Moi, je dirais, en réfléchissant à ce que saint Paul appelle les dominations, les autorités, les principautés, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, c'est des termes un peu mystérieux, mais j'essaye d'écrire un livre actuellement un peu sur ces questions. Et je me dis, il y a comme une combinaison entre l'humain et des puissances invisibles, angéliques, si on, je ne sais pas s'il faut les appeler, je ne sais pas comment il faut les appeler. Par exemple, dans l'ouverture des quatre premiers sceaux, dans l'Apocalypse, au chapitre 6, il y a quatre chevaux d'abord qui sont libérés. Et le deuxième cheval, il est rouge feu. Et il est dit, celui qui le montait avait le pouvoir d'ôter la paix sur la terre et de faire que les hommes s'entretuent et s'égorgent les uns les autres. Mais c'est terrible, ça. C'est pas Dieu qui... Certes, il le permet, c'est vrai, il faut le dire, mais c'est pas le Seigneur qui veut ça, puisqu'il a donné sa vie pour le contraire. Mais... n'empêche qu'il y a comme une espèce de combinaison entre l'humain, avec son péché, avec ses mauvais projets, avec son égoïsme, avec son amertume, avec son esprit de vengeance, et puis ces puissances qu'on n'arrive pas bien à qualifier, qui se mettent ensemble pour ôter parfois la paix. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de responsabilité, bien au contraire, c'est même nous qui avons la responsabilité d'arrêter ça. Parce que nous avons reçu les clés, nous avons reçu l'autorité restituée par le Seigneur de ce que nous avions perdu au Jardin d'Éden, c'est-à-dire l'autorité de gérer la création, de gérer la terre avec sa force, avec sa sagesse. Et c'est quand même fou de penser que chaque fois qu'il y a des tensions qui deviennent insupportables ou qu'une partie de l'humanité se lève contre l'autre pour prendre quelque chose, chaque fois, ça revient toujours au même schéma. Il faut, par exemple, là, dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, c'est facile de faire le choix parce que c'est vrai que l'Ukraine a été attaquée. Donc, comme chrétien, on prend parti, d'ailleurs, comme la plupart des gens, pour celui qui a été attaqué plutôt que l'autre. C'est normal. Mais chaque fois, la solution qu'on préconise, c'est d'armer ceux qu'on soutient. Mais de l'autre côté aussi, du côté russe aussi, enfin, peu importe. Je ne veux pas parler de la Russie et de l'Ukraine, mais la solution, on va toujours la chercher dans des armements plus puissants, plus sophistiqués, avec un nombre de gens qui s'engagent, qui s'enrôlent dans l'armée, plus nombreux, etc. Ça fait des millénaires, que ça dure, ça. Puis on n'a encore pas compris. On n'a encore pas compris que ça ne pouvait pas continuer. C'est complètement idiot, c'est débile de continuer comme ça, toujours avec le même schéma. C'est complètement... Enfin, je retiens le mot que je voulais dire. Mais c'est dingue, quoi. Alors, il faudrait pour que... Bien sûr, aujourd'hui, on a fait peut-être quelques petits progrès, dans le sens que on négocie un petit peu plus qu'autrefois. Avant, on tapait avec des gourdins, tac, on tuait tout le monde. Là, on essaye quand même d'éviter, d'abord parce que les guerres sont devenues, ça touche des millions de personnes, c'est plus comme autrefois, c'était quelques soldats qui se battaient dans la campagne. Mais on cherche à négocier la paix, à voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Mais ça va souvent pas très loin, parce que très rapidement, le fond humain revient à la surface. Et ça, c'est récurrent. Alors, d'ailleurs, vous savez, les négociations de paix, elles vont jamais très loin. Et peut-être au mieux, on va faire des pactes de non-agression, comme on dit. Mais la non-agression, ça veut dire le fait de ne pas attaquer, mais ce n'est pas encore la paix, ça. La paix, c'est la réconciliation entre la non-agression. Bon, c'est mieux que rien, d'accord. Mais, et puis la réconciliation, je dirais même l'affection qu'on pourrait avoir d'un peuple à l'autre, il y a quand même une différence. Et donc, il faudrait... La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut renverser ce courant qui dure depuis des milliers d'années? Comment est-ce qu'on a l'espoir de pouvoir renverser ce courant et puis voir autre chose? Mais pour voir autre chose, il faut que ça vienne de quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez les humains, complètement différent. Il faut que ça vienne de quelque part, je ne sais pas comment le qualifier, mais vous savez très bien que quand je dis ça, je veux parler du royaume de Dieu. Il faudrait que ça vienne vraiment de là où Dieu règne. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce quelque chose d'autre, capable de démanteler les forces d'égoïsme, les forces d'orgueil, les forces d'insolence, d'entêtement, de vengeance, qui restent là comme des démons dans le cœur humain, et on peut dire tous les humains, en tout cas jusqu'à leur régénération par Jésus-Christ, eh bien cette force-là, elle existe. Ce quelque chose d'autre est là, il est venu sur la terre, et ça fait 2000 ans que cette chose mystérieuse et extraordinaire attend des gens qui veulent bien se mettre à disposition pour faire changer les choses. Je le dis aussi pour moi, parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose non plus. Dans ce sens-là, j'ai réfléchi, oui, mais c'est plus difficile d'aller plus loin. Mais le Seigneur voudrait qu'on aille plus loin. Et nous savons comment le Seigneur l'a fait. Nous savons qu'il a eu une pensée, un projet auquel personne n'avait pensé auparavant. Personne n'avait imaginé ce que le Seigneur Dieu a fait pour rétablir la paix parmi les hommes et les femmes. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, nous le savons, après avoir été annoncé par tout un courant prophétique dans un petit peuple inconnu qui a été choisi par lui et qui s'appelle Israël, il a repris les choses en main en entrant lui-même dans notre humanité, lui-même. Il n'a pas déclaré les choses du haut du ciel en disant, eh bien voilà ce que vous pourriez faire, je vais vous envoyer un traité qui traite de ces questions et vous allez faire comme c'est écrit dans le traité. Non, il est venu lui-même. Il s'est investi dans ce que nous sommes. Et il a porté, c'est une formule évidemment qu'on connaît par cœur, quand on dit il a porté nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. C'est des formules qu'on connaît par cœur parce qu'elles sont tellement extraordinaires que dans Ésaïe 53, dans Psaume 22, etc., que on est presque trop habitué, mais c'est renversant. C'est délirant, c'est stupéfiant. Le Seigneur a pris sur lui la responsabilité du mal. Au lieu de nous en vouloir en disant, Moïse a été tenté de le penser à un moment donné, je vais liquider cette humanité, il y en a assez, on va refaire comme au déluge, et puis on va tout recommencer avec toi Moïse, toi tu es un homme de Dieu, on va recommencer avec toi. Non, Moïse dit, ah non Seigneur, non, fais pas ça, parce que si tu fais ça, mais tout ton plan, toutes tes promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, ça va être plus rien, les gens vont dire, mais c'est... Ce Dieu-là, il ne tient pas sa parole, il n'a pas réussi, il est obligé de faire autrement, il est obligé de liquider les gens pour recommencer avec d'autres qui vont faire mieux. Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Et les Égyptiens de qui tu les as délivrés vont rigoler, vont dire, oh, leur Dieu n'a pas été capable de faire quoi que ce soit avec ce peuple-là, on l'avait bien dit. C'est ça qui pourrait arriver. Et Moïse reprend les choses, mais Dieu n'attendait que cette réaction de la part de Moïse. Alors, le Seigneur va reprendre les choses, il se rend responsable, il nous libère de la culpabilité, il nous libère de notre incapacité, il nous dit, oui, c'est vrai, oui, vous êtes perdus, vous êtes incapables, vous êtes charnels, vous n'arrivez pas à faire ce que je vous dis, mais je prends ça sur moi. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'avoir toujours honte. Oui, c'est juste que vous ayez honte, c'est juste que vous sentiez un peu coupable. Mais arrêtez, moi j'efface tout ça, je prends ça sur moi. C'est moi qui paye la note. C'est moi qui paye la note. Mais une offre pareille, mais ça devrait nous retourner complètement. Quand on entend ce message, et j'espère que dans le turning il va être... non seulement diffusé, mais reçu par des gens. Alors, qu'il y ait des gens qui réagissent mal, qui viennent insulter en disant « qu'est-ce que vous voulez nous embêter avec vos salades ?» c'est presque une preuve que l'Évangile, c'est la vérité. Parce qu'une chose aussi bonne que l'Évangile de Jésus-Christ, qu'elle puisse être taxée et qualifiée par des gens de rien du tout. Arrêtez avec vos salades. C'est presque une preuve, moi je dirais même c'est une preuve que l'Évangile est la vérité. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être contre le message de la Bible. Il n'y a aucune raison. Donc s'il y a des gens qui se bloquent contre, c'est la preuve que c'est de Dieu. Et qu'en réalité c'est le péché de l'homme qui ne veut pas que Dieu se mêle de ses affaires qui provoque ça. Enfin, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est un aspect quand même intéressant. Donc, la seule force qui peut contrer la guerre, ça n'est pas la guerre. Le brillant Jules César, dont on se réclame en Occident comme un des penseurs, un des hommes d'action les meilleurs, le brillant Jules César avait dit, si tu veux la paix, qu'est-ce que tu dois faire ? Prépare la guerre. Eh bien, ce slogan, il est idiot. Je suis d'accord que Jules César était un type très intelligent, d'accord, ok. Mais c'est quand même idiot parce que ce slogan, il peut être valable pour le plus fort. Il est valable pour Jules César lui-même. Il est valable pour les Romains qui étaient les plus forts à ce moment-là. Il est valable pour les légions romaines qui étaient quasiment sûres de gagner quand ils se battaient contre d'autres peuples. Mais pour les autres, non, c'est l'écrasement. Si tu veux la paix, prépare la guerre, non. Si tu veux l'écrasement des peuples, prépare la guerre. Mais pas si tu veux la paix. On ne triomphera pas de la guerre par la guerre. Ça, c'est l'Évangile qui le dit. On ne triomphera... Pourtant, il y a eu des guerres. Hein. Dans l'histoire d'Israël, il y a eu des guerres. Et Dieu ne nous a pas épargnés dans la Bible de récits de guerres. Certaines étaient relativement humanisées, mais il y en avait d'autres qui étaient terriblement violentes, même de la part des Israélites. Hein. Et des autres peuples, c'était comme ça. Et la Bible est réaliste, elle ne nous cache pas la réalité. C'est comme ça, la guerre, c'est terrible. Mais, par contre, le Seigneur nous enseigne qu'il faut une force complètement différente de la force violente des combats, des militaires. Enfin, quand je dis des militaires, je ne condamne pas les gens hein, quand je dis ça, mais de l'esprit guerrier. Il faut une force complètement différente, quelque chose de complètement différent qui puisse renverser la vapeur et faire aller le monde dans un sens, dans un autre sens. Et cette seule force, il n'y en a qu'une, c'est l'évangile de Jésus-Christ. On va développer un tout petit peu pourquoi. D'abord parce que celui qui peut vaincre la guerre, c'est celui qui est ressuscité des morts, c'est celui qui a vaincu la mort. Le dernier ennemi, dit la Bible, le dernier ennemi qui sera vaincu à la fin, c'est la mort. Il y a un ennemi terrible qui doit être vaincu, terrible, c'est Mammon, c'est l'argent Mammon. Ça, c'est un ennemi terrible. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, ce n'est pas le propos. Mais le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. D'abord le péché par la mort de Jésus. Mais après le péché, la force de du légalisme, ça aussi on l'oublie trop souvent. Dieu est venu nous libérer non seulement de nos fautes et du péché, mais aussi du légalisme. Parce que tant que nous sommes esclaves de la loi, pas au sens du contenu de la loi, parce que la loi est bonne, pas dans ce sens-là, mais dans le sens d'une puissance qui nous dit « Si tu accomplis toute la loi, tu pourras être du côté des vainqueurs. » Le problème, c'est que je n'y arrive jamais. Et qu'aucun homme et aucune femme n'arrive jamais à accomplir la loi. On le fait un bout et on fait une dépression, on fait un burn-out parce qu'on n'arrive pas plus loin. Et nous sommes accablés par la honte, par le sentiment d'incapacité. Mais le Seigneur a fait grâce, il a fait place nette et il nous dit maintenant je vous reçois. Non plus comme des pécheurs, mais comme des pécheurs pardonnés. Je vous reçois non plus comme des légalistes esclaves de la lettre de la loi, mais comme des gens libres, des citoyens libres dans mon royaume, parce que je vous envoie la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, vous pourrez faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. L'homme est charnel. Il avance pas, il peut pas aller jusqu'au bout, c'est pas possible. Et il a besoin d'une autre puissance. Et cette autre puissance, c'est à la fois la grâce de Dieu, c'est place nette. Nous sommes là maintenant devant le Seigneur comme des enfants de Dieu, qu'il aime, qu'il honore. Mais c'est aussi la puissance du Saint-Esprit qui vient changer complètement notre mentalité. Le premier narratif de la Bible concernant la guerre, c'est quelle histoire ? Celle de Caïn et Abel. Juste. Vous savez, les premiers narratifs de quelque chose, c'est d'un enseignement invraisemblable. Le premier intercesseur, c'est Abraham. Lisez quand il intercède pour Sodome et Gomorre, qu'est-ce qu'on en apprend sur l'intercession ? Le premier narratif du pardon, c'est avec Joseph en Égypte et ses frères qui viennent mais qui ne le reconnaissent pas et qui font tout un travail intérieur en disant c'est nous, c'est de notre faute, on a voulu tuer notre frère, on l'a vendu à des marchands, etc. Donc il y a les premiers narratifs de toutes sortes de choses dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, ils sont chargés d'une importance, d'un enseignement primordial. Alors avec Caïn et Abel, je me rappelle que j'ai prêché là-dessus ici il y a peut-être une année ou deux, mais je reprends certains éléments. C'est la première guerre au fond, c'est la première. Peu importe pourquoi il y avait un problème entre Caïn et Abel, c'est expliqué dans la Bible, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y a le conflit et qu'il y en a un qui est plus arrogant que l'autre. Il y en a un qui est vexé parce que, voilà, Dieu n'a pas agréé son sacrifice alors qu'il a agréé celui de son frère qui était moins brillant. C'est Abel, ça veut dire celui qui est tout léger, qui est une petite vapeur, qui va disparaître, alors que Caïn, ça veut dire c'est quelque chose qui a du poids, etc. Alors, Caïn est rempli d'une colère, d'une déception, d'une amertume, d'un ressentiment terrible parce que Dieu n'a pas agréé son sacrifice comme celui de son frère. Et la réponse, la solution, elle existe. C'est d'abord de se mettre à l'écoute des questions de Dieu. Dieu pose des questions à Caïn, gentiment. Dieu n'est pas contre Caïn, pas du tout. Il lui dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu tombes dans la dépression? Pourquoi t'es malheureux? On pourrait dire, ben c'est évident, c'est parce que son sacrifice n'a pas été agréé, contrairement à celui de son frère. Mais non, il faut, même quand on croit avoir la réponse et qu'on pourrait dire, ben c'est pas étonnant, non, il faut laisser la question descendre profond. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi laisses-tu l'amertume prendre le dessus? Et si on laisse au Saint-Esprit le temps de nous parler sur ces questions, qu'on les entend, qu'on les rumine, qu'on les réfléchit, ça va changer quelque chose. Parce qu'après, le Seigneur dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Oui, ça sera peut-être plus difficile que pour Abel. Abel, ce qui a été difficile, c'est qu'il a fait un sacrifice pas facile. C'est plus difficile de sacrifier un brave petit mouton que d'offrir des plantes et des productions agricoles. Mais, donc pour Caïn, ça devient difficile aussi, c'est vrai. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché, cette puissance qui est quasi personnalisée, se couche à ta porte. Il est prêt à bondir sur toi comme une bête féroce. Ouh ! Si tu cèdes, il te saute dessus. Alors toi, domine sur lui. Domine sur lui. C'est ça la question. Comment dominer sur une bête comme ça ? Caïn n'en a pas été capable, parce que juste après, on nous raconte qu'il va dans les champs avec son frère, et que là, il étrangle son frère, il l'écrabouille avec ses mains, il ne peut plus respirer, il meurt. Joli, joli. Mais, en fait, qu'est-ce que je vous dis en disant ça ? Oui, si tu agis, Caïn n'a pas réussi à dominer la bête. Il y en a un seul qui peut dominer, un seul. Le même, dans l'Apocalypse, à qui il a été permis d'ouvrir le livre scellé de sept sceaux. Il y avait une seule personne dans le monde entier qui pouvait déceler le livre aux sept sceaux. Eh bien, il y a une seule personne dans le monde entier qui puisse vaincre la bête. C'est Jésus de Nazareth, Yeshua HaMashiachnu. Parce que il n'a pas triché, il a accepté le plan de son Père qui était de donner sa vie en toute lucidité, en toute lucidité. Jésus a donné sa vie en sachant ce qu'il faisait pour nous racheter, les uns et les autres. Et ça, c'est la puissance, c'est la seule puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui véhicule cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui véhicule ce message. C'est la seule puissance qui peut triompher de l'esprit guerrier. Il n'y en a pas d'autre. Alors bien sûr, les généraux, moi j'écoute beaucoup certains postes français internationaux, là, comme CNews, comme là où il y a Darius Rochemin, LCI, etc. Ils interviewent des gens extrêmement intelligents, hein, qui ne disent pas des bêtises d'un côté. C'est très fort. N'empêche qu'ils ne sortent pas du schéma du monde. Ouais, il y en a un ou deux qui ont des petites percées. Des petites percées. On se dit peut-être qu'ils sont chrétiens secrets, je ne sais pas. Mais ils n'osent pas trop le dire. Mais la seule solution que ces grands généraux ou que ces grands penseurs et philosophes donnent dans ces interviews, c'est la solution de l'armement et de la guerre. En espérant qu'on va la faire le plus humainement possible, mais c'est rarement le cas. Ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Et puis, en espérant qu'une fois que l'armistice, parce que c'est vrai que le clan, parce que maintenant c'est des coalitions, les coalitions de nations qui se mettent ensemble pour en battre une autre coalition, il peut en arriver que celle qui gagne, eh bien oui, pendant quelque temps, il faut reconnaître que ça va mieux, ça se calme, apparemment ça se calme. Mais en attendant, l'esprit de vengeance, il est en train de travailler, ça continue, il n'y a rien du tout de guéri, on n'a rien résolu du tout parce que ça se calme quelques années. On vient de vivre 75 ans de relative paix en Europe. C'est à peu près la première fois en Europe, dans l'histoire de l'Europe, qu'on a vécu une période aussi longue, avec une période de paix plus ou moins. Enfin, quand je dis l'Europe, je devrais dire l'Occident, parce qu'il faut mettre l'Amérique du Nord dans l'affaire. Mais il n'y a rien de résolu. L'esprit du nazisme est toujours là. Le racisme et le fascisme, l'esprit du fascisme est toujours là. Le péché est toujours là. Le totalitarisme des régimes autoritaires, ça existe toujours. Donc on n'a rien résolu. Et on continue à préconiser les mêmes moyens traditionnels qu'avant. Le Seigneur a opéré une rupture. Il a dit, désormais, vous pouvez entendre cette parole parce que je vous ai régénéré par la grâce et par le Saint-Esprit. Et moi, je vous dis, tu aimeras ton prochain comme si c'était toi-même. Et encore mieux que ça, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé, ou tandis que moi, je vous aime. Aimez-vous de la même manière que moi, je vous ai aimé. Ça, c'est la clé. Aimer. On dira, oui, mais aimer, justement, c'est ça qui est difficile. Mais non. Si on fait recours, si on fait appel au Seigneur, ça devient, je ne dis pas que ça devient facile, mais ça ne devient pas difficile. Mais non. Le Saint-Esprit est capable de nous faire aimer. Mais il faut le décider. Il y en a qui croient qu'il faut attendre d'avoir des sentiments romantiques et du bisounours pour aimer. Non, ça n'a rien à voir. C'est une décision. Je prends la décision que désormais, telle ou telle personne qui m'énerve et qui me tape sur les nerfs, je l'aime. Un point, c'est tout. Je l'aime, c'est tout. Alors vous direz, oui, mais quand même, c'est pas facile. Oui, non, d'accord, c'est pas facile. Mais par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'on est nous sommes des croyants ou nous ne sommes pas des croyants? S'ils ont dit que ce n'est pas possible, on n'est pas des croyants. Il ne faut pas dire qu'on est chrétien si on dit que ce n'est pas possible. Par contre, si on est chrétien, si on est des croyants, on peut dire oui, c'est possible. Et je vais m'y mettre. Alors évidemment, je sens l'objection qui monte en nous. encore une. J'espère que c'est la dernière, que moi j'ai aussi d'un côté. C'est de dire oui, mais alors, d'accord. Peut-être que sur le plan personnel, sur le plan familial, si on fait attention, si on travaille sur nos façons d'être et d'agir, on va peut-être triompher, on va peut-être voir cette bête, sinon disparaître complètement, du moins perdre de la force, parce qu'on ne lui donne plus à manger, on a réussi à la mettre en cage. Jésus est venu pour mettre en cage la bête, pour mettre en cage le diable, et puis après, ben, il ne faut surtout plus lui donner à manger, hein. Parce que tant qu'on lui donne à manger, elle va regagner en force. Mais si on ne lui donne plus rien à manger, plus d'occasion, elle va arrêter d'aboyer d'abord. Hein, et puis elle va aussi arrêter de mordre. Elle va mourir. C'est ça qu'on veut. C'est la mort de la mort. C'est la mort de la guerre. C'est la mort du péché. Mais c'est fait. Jésus a donné sa vie. Il a englouti dans sa mort ce qui doit mourir. Il a englouti dans sa mort ce qui doit mourir. Seigneur, je te prie, je te bénis, parce que ce sont des choses, d'un côté, que nous connaissons intellectuellement, théologiquement, mais ce sont des choses, ce sont des mystères que nous devons intégrer dans notre vie. Et moi, je te demande pour moi-même de l'intégrer beaucoup plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et que ça soit vrai pour chacun de nous, Seigneur. C'est un mystère que cette victoire. Et nous demandons qu'elle s'implante, qu'elle s'intègre en nous, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons cela. Nous ne voulons pas que cette fatalité des guerres recommence. Alors, pour continuer ma question de tout à l'heure, on dira oui, peut-être sur le plan personnel, sur le plan familial, peut-être on peut arriver un peu à certains résultats, peut-être même dans l'Église, on peut y arriver plus ou moins, parce qu'on est tous chrétiens, on comprend un peu les choses, on va peut-être essayer, ça va peut-être marcher. Mais quand vous avez affaire à des peuples, à des nations, mais vous imaginez pas, ça voudrait dire qu'il faut que tout le monde se convertisse. Il faudrait que tout le monde se convertisse, un peuple tout entier. Alors, oui, d'un côté c'est vrai, je reconnais. Il faudrait qu'un peuple tout entier, ou les peuples, se tournent vers le Seigneur et croient que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je dirais, est-ce que nous avons déjà prié de cette manière pour que, par exemple, notre peuple, puisque nous sommes en Suisse, mais ça pourrait être vrai de n'importe quel peuple, pour que notre peuple connaissent une visitation de Dieu très forte, un esprit de repentance, parce que ça, il faudra la repentance, ça ne peut pas se faire autrement. Un esprit de repentance sur nos péchés, une conviction de péché, non pas où on se bat la coulpe juste pour faire le gars qui se repent, parce que ça, ce n'est pas intéressant, mais vraiment une conviction de péché, quoi. Dire, je ne continue pas comme ça, c'est horrible. Ma manière de vivre, elle est horrible. Je fais encore beaucoup trop de mal, même si c'est peu aux yeux des gens, c'est beaucoup à tes yeux, Seigneur, et je te demande pardon, ce n'est pas possible de continuer. Donc, est-ce que nous avons déjà adressé au Seigneur ce genre de prière par laquelle nous reconnaissons que nous avons besoin du Sauveur, du Ressuscité, de la puissance du Saint-Esprit, et que nous avons besoin de demander pardon? La première chose, c'est de nous réconcilier avec Dieu, notre Père. La guerre, elle commence là, ou plutôt la paix, elle commence là. Se réconcilier avec Dieu, notre Père, avec Dieu, notre Père, avec Dieu, notre Père. Et une fois qu'on fait ça, on peut commencer à se réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Sans le Père, il n'y a pas de fraternité. Pour qu'il y ait fraternité, il faut que le Père soit là. Et est-ce qu'on a déjà élevé une prière ensemble, hein, parce que je ne crois pas que ça... Oui, il y a des célèbres intercesseurs qui ont pu faire beaucoup à eux tout seuls. Mais le mieux encore, c'est d'être au moins à deux ou trois. Et si on est toute une église ensemble, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Se dire, allez, Seigneur, maintenant on s'y met, on croit en toi, on sait ce que tu as fait, tu nous as graciés, on est libre par rapport au péché, mais on est libre aussi par rapport au légalisme, libre par rapport à l'hypocrisie pharisienne. Maintenant on y va, et même tu nous as rendu l'autorité sur les démons et sur les puissances des ténèbres, et tu nous charges de gérer le monde correctement comme tu le veux. On va s'y mettre et on demande une visitation, Seigneur. Même si on n'a pas la foi pour tout le monde, tout un peuple, moi j'avoue, je n'ai pas la foi pour tout un peuple, mais par exemple, pour la moitié de ce peuple, si on est 8 millions en Suisse, ben 4 millions. Ou même pour le tiers, ça fait quoi ? 2 millions et demi ? 3 millions ? Ouais, 3 millions. Hein. Ou même pour le quart, 2 millions. C'est déjà pas mal, hein. Mais même un quart, hein, même moins, il suffirait de quelques centaines de milliers de personnes qui se convertissent vraiment, vraiment, et qui veulent continuer. Ce n'est pas juste une expérience de lever la main dans une réunion, hein. C'est vraiment continuer jour après jour et année après année. Eh bien, ça suffirait pour emporter le morceau, pas pour le définitif. Je crois que pour ce qui est définitif et parfait, il faut attendre le retour de Jésus. Il faut attendre le retour de Jésus dans sa gloire. Ça, je crois ça. Mais au moins pour un temps, on pourrait, par une prière fervente, avec quelques milliers de personnes qui s'y mettent vraiment, je suis sûr qu'on pourrait écarter certains fléaux. Il y a eu en Suisse des gens comme ça. Il y a eu des chefs d'entreprise dans le passé en Suisse, quelques chefs d'entreprise qui ont vraiment pratiqué la justice avec leurs ouvriers, qui ont vraiment pratiqué des choses, des manières justes de faire, de payer les salaires, de mettre en valeur des gens qui étaient, j'allais dire méritants, mais c'est pas tellement le bon mot parce que ça fait, mais qui étaient, ouais. Qui étaient dans des justes, quoi. Et ces gens-là ont réussi à implanter dans la culture helvétique, il faut quand même leur connaître, des bonnes habitudes sociales, qui fait qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a plutôt moins de problèmes que dans beaucoup d'autres pays, parce que ça nous a été donné dans le passé d'acquérir des habitudes qu'on a même inscrites dans les lois. On a fait des lois qui étaient justes. Oh, il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes. Hein. Et puis maintenant, il y a une certaine décadence. Mais malheureusement, il y a une sorte d'apostasie. Mais quand même. Et je voudrais là prendre trois exemples qui ne sont pas en Suisse. Enfin oui, le premier, oui. L'exemple, par exemple, de Nicolas de Flux. Vous savez qui c'est, Nicolas de Flux? Peut-être les Suisses-Allemands, ils savent un peu mieux. Niklaus von Flühen. Hein. Cet homme-là, c'était un homme de Dieu. Vers le milieu de sa vie, il habitait pas loin du Grütli, la prairie, enfin le Ranft, je crois que ça s'appelait, enfin, bref, en Suisse centrale, vers le lac des Quatre Cantons. Et cet homme-là, il s'est consacré à Dieu dans une prière vraiment intense et en même temps en obéissant à ce qu'il priait, au Dieu qu'il priait. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé, cet homme-là? À un moment donné, il a eu à cœur de prier pour l'unité des cantons suisses, parce que les cantons suisses, il n'y avait pas encore tellement la Suisse romande dedans, c'était encore un peu avant, ils étaient au bord de la rupture, entre les cantons villes, comme Zurich, Bâle, etc., Berne, et puis les cantons campagnards, comme les autres cantons. Ils étaient au bord de se séparer, de se faire la guerre même. C'était extrêmement grave. Eh bien, cet homme-là, Nicolas de Flux, il a prié avec intensité et la réconciliation, la paix est intervenue entre les cantons et on peut dire que la Confédération helvétique a été sauvée dans son unité à cause de Nicolas de Flux. Pas uniquement lui, il y en a d'autres, mais lui, il est spécialement connu pour ça. Et puis, il y a des gens qui venaient le consulter depuis les autres pays limitrophes parce qu'il avait une sagesse qui était reconnue. Un deuxième exemple, c'est Derek Prince, pour ceux qui connaissent un peu, il a vécu au XXe siècle, on l'a même connu, et c'était un homme qui avait été officier, pas très haut gradé, mais officier dans l'armée britannique pendant la guerre, et il s'est aperçu de l'horreur de cette guerre. Il était en Afrique du Nord avec le corps expéditionnaire britannique qui devait se battre contre les nazis. Et il a été poussé dans la prière à demander, en entendant des nouvelles à la radio, un renversement du cours de la guerre, en disant « Seigneur, ce n'est pas possible, il faut pas que cette armée des nazis du Troisième Reich allemand ça continue de gagner. Non, Seigneur, oh, je t'en supplie, je te demande au nom de Jésus qui est venu apporter la paix, renverse le cours de la guerre. » Alors, je n'entre pas dans les détails. Et il devait y avoir une bataille à un endroit qui s'appelait El Alamein. Il faisait partie des gens qui étaient dans cette bataille, qui était une des pires batailles, les plus dures de toute la guerre 39-45. Et il s'est trouvé que, contre toute attente, ces régiments allemands qui avaient tout gagné jusqu'à alors ont perdu. Et l'Afrique du Nord a été perdue pour l'armée allemande. Et il y a tout lieu de croire que la prière, avec peut-être quelques autres hommes, de Derek Prince a joué un rôle majeur dans cette affaire. Et puis un troisième exemple, Rhys Owens, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de lui, c'était un Gallois, aussi en Angleterre, c'est marrant là. Les Britanniques, Dieu a quand même pu se servir pas mal d'eux, hein, je ne sais pas, c'est quand même impressionnant. Rhys Owens, qui était un intercesseur assez extraordinaire, il a intercédé pour beaucoup de gens. Il a commencé petit pour des pauvres, des malades, toutes sortes de gens pour lesquels il priait. Et il y avait des exaucements parce qu'il obéissait vraiment au Seigneur. Et puis alors, à un moment donné, ça a été ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre, c'est-à-dire en 1943, l'aviation, l'armée de l'air allemande pilonnait Londres, alors avec ses V1. C'était des bombes sur bombes sur bombes sur bombes. Et on se disait que Londres allait être détruite. Ils allaient détruire Londres, ce qui aurait été catastrophique. La France avait déjà capitulé, mais alors si même l'Angleterre s'y mettait. Et il a prié avec intensité, avec un petit groupe, pour que le cours de la guerre soit renversé. Et au bout de quelques semaines, il a été renversé. Les Allemands, l'armée nazie a dû rentrer en Allemagne, a presque détruite presque entièrement. Alors je ne dis pas que c'est seulement Rhys Owens. Il y a d'autres gens, bien sûr, qui ont prié, puis il y a d'autres gens qui ont, comme Churchill, qui ont tenu ferme, etc. Bien sûr. Mais la prière de Rhys Owens avec son groupe a certainement joué un rôle majeur dans le triomphe de l'Angleterre. Alors, bien sûr, on est encore dans la guerre quand je dis ça, hein, mais ça peut aller plus loin, ça peut même aller jusqu'à obtenir des réconciliations, au moins temporaires, je ne dirais pas définitives. Il y a un exemple dans la Bible qui est intéressant. Ah oui, j'ai pas lu, je voulais vous lire des textes bibliques un petit peu, je n'ai pas fait. Bon, dans deux psaumes. Enfin, en résumé, c'est où il est dit, ça n'est pas dans la force de l'homme, ça n'est pas dans la puissance du cheval que réside, c'est dans le psaume 33, et puis dans le psaume 44, il est dit ça, c'est pas là que réside la victoire, c'est dans la puissance de Dieu, dans le nom de l'Éternel. Et puis alors, il y a cet épisode où Élie se trouve il est avec son serviteur dans la ville de Samarie, et son serviteur, il se lève tôt le matin, il voit tout d'un coup que c'est plein de Syriens qui leur faisaient la guerre, qui entourent la ville. Puis il dit, ouh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire, maître? On est fichu, ils nous entourent. Et puis Élie prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et le serviteur le voit, il est bouleversé. et il retrouve confiance. Alors, ça n'a pas été quelque chose de définitif, parce que si vous lisez le chapitre d'après, vous voyez que les Syriens, ils recommencent. Mais pendant un temps, ils ne sont pas recommencés, quand même. C'est dit aussi. Donc, voilà. Alors, moi, je termine en disant, finalement, est-ce que nous serions d'accord, est-ce que nous sommes interpellés par ce que je viens de vous dire, de la part du Seigneur, je le vous dis, de la part du Seigneur, qui attend encore que les chrétiens se mobilisent d'abord dans la prière, pas tout seul, oui, certainement, mais pas tout seul, ensemble, dans des groupes ou dans même des églises entières, pour dire oui, nous demandons que la fatalité de la guerre soit brisée et que ça ne devienne pas une sorte d'obligation, parce que c'est tellement complexe qu'on ne sait plus comment s'en dépêtrer, on ne sait plus comment faire pour se dégager. C'est possible, Seigneur, parce que tu as des moyens surnaturels, comme là dans l'histoire des Syriens et dans bien d'autres. Seigneur, tu as des moyens surnaturels qui peuvent agir, mais tu as aussi une puissance de vie et d'amour par lequel tu peux rendre crédibles tes promesses de paix et que tes enfants, tous ceux qui t'appartiennent, s'ils s'unissent et s'ils prient de cette manière-là, on pourrait voir des changements qui arrivent. Seigneur, je te prie de cela. Nous voulons encore... Oui, peut-être on pourrait terminer avec des petits groupes, là, comme on a fait ce matin, déjà 3 ou 4 personnes, où on prie. Peut-être élever une prière dans ce sens-là, vous-même. Je veux pas toujours... C'est pas toujours les prédicateurs qui doivent prier pour l'Assemblée, mais l'Assemblée. Allez-y. Allez-y. Peut-être 3 ou 4, des petits groupes, 3 ou 4, comme ça. Laissez-vous inspirer.